Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la Grande Tchatch, le ravi Radio Grenouille. Le ravi, c'est votre mensuel dans tous les kiosques de la région, tous les premiers vendredis du mois. Aujourd'hui avec nous pour cette nouvelle édition de la Grande Tchatch, Annick Bouette. Bonjour, conseillère municipale. Bonjour. Socialiste. Annick Bouette, vous êtes abonnée au ravi?
Non.
Ah ben écoutez, vous allez le faire juste avant de sortir.
Mais j'achète un kiosque.
Vous avez également la possibilité de faire sur le site internet www.leravi.org. Une tradition, Annick Bouette, dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Question métaphysique. Y a-t-il une vie après un demi-siècle passé au Parti communiste? Robert Rue aurait pu nous éclairer, mais notre sénateur barbu préféré est trop occupé avec le MUP, son nouveau parti de masse. Et puis pourquoi aller chercher si loin quand on a chez soi une Annick Bouette? Lorsque vous adhérez aux jeunes communistes, en 67 à Marseille vous n'avez que 12 ans. Et seulement 17 en 72 lorsque vous prenez votre carte au PC. Ils auraient dû se méfier. D'accord, vos origines sociales plaidaient pour vous. Né dans une famille très modeste, vous passez en effet vos premières années dans un deux pièces. Très bien. Mais ce deux pièces était situé dans les quartiers sud, hein, ceux où les riches prospèrent à Marseille, là où un certain Jean-Claude Godet a grandi. Comme un péché originel, cet accident géographique est en quelque sorte votre premier acte de dissidence. Et vos dissidences seront nombreuses par la suite. Vos amis vantent votre pugnacité, votre intransigeance, votre indépendance. Vos adversaires conspuent plutôt votre sale caractère, allez savoir. Tous se souviennent de votre coup de maître en 88, candidate PC aux législatives, vous refusez d'appeler à voter au second tour pour l'affairiste Bernard Tapie, soutenu par le PS. Même Georges Marchais ne parvient pas à vous faire changer d'avis. Cela ne vous freine pas, les batailles s'enchaînent et vous finissez par présider le groupe communiste en mairie de Marseille. En 2007, ultime dissidence, vous préférez Beauvais à Buffet à la présidentielle. Les deux candidats sont réconciliés par les électeurs qui leur offrent à chacun une belle veste. Dans la foulée, vous claquez définitivement la porte du PC après 40 ans de service. Aujourd'hui, simple conseillère municipale d'opposition, vous êtes également salarié de la filiale transport d'une multinationale, Veolia. Et hostile à la remunicipalisation de l'eau, font remarquer les mauvais esprits. Vous voilà, surtout, adhérente au PS. Ils auraient dû se méfier eux aussi. En 2008, vous soutenez la candidature de Jean-Noël Guérini au municipal. Mais la lune de miel ne dure que le temps d'une campagne. Désormais mandataire d'Arnaud Montebourg dans les Bouches-du-Rhône, votre candidat aux primaires, vous êtes en première ligne pour dénoncer les pratiques du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Ex-secrétaire de la Fédé socialiste du 13, vous candidatez à sa direction pour fermer le chapitre de clientélisme. En êtes-vous sûr? Un nouveau chapitre du roman fleuve clientéliste ne serait-il pas plutôt sur le point de s'écrire?
Annick Bouette, un commentaire sur ce portrait un petit peu rapide, mais vrai, non?
Oh ben vrai, mais juste un petit point, c'est je ne suis pas salariée de Veolia, je suis salariée de Transdev, donc la Caisse des dépôts et consignations, je suis responsable qualité, sécurité, environnement de la région Méditerranée, voilà.
Voilà, il fallait que ce soit dit. C'est dit. Annick Bouette, il ne vous a pas échappé qu'on a eu une élection présidentielle avec un changement de gouvernement. Comme le rappelait Michel Guéraud tout à l'heure, vous étiez communiste au départ. Vous avez franchi le pont, vous êtes devenu socialiste aujourd'hui, porte-parole de Montebourg ici en tout cas. Votre point de vue sur ces premiers mois de gouvernement François Hollande avec au gouvernement Montebourg?
J'ai franchi le pont, mais je n'ai pas franchi le Rubicon. Je suis toujours de gauche. Et j'ai été quand même...
Est-ce que c'est la même gauche, d'ailleurs? La question pourrait être celle-là. Est-ce que c'est la même gauche?
Je travaille à ce qu'on dégage une vraie politique de gauche. Et j'ai été, avec de nombreux amis, une artisane de cette victoire. Et je sais, comme beaucoup de Français, j'ai beaucoup d'attentes envers ce gouvernement. Et j'espère qu'on n'est pas en train aujourd'hui de faire comme les sociaux-libéraux en Europe, de prendre un virage libéral au nom de la sacro-sainte crise. C'est vrai qu'il y a la crise, mais ce n'est pas en utilisant de vieilles recettes qu'on va se sortir de là et de la loi des marchés.
Michel, est-ce qu'il n'y a pas déjà un déséquilibre dans ce gouvernement entre la figure d'un Valls, par exemple, qui semble avoir l'oreille de Hollande, et puis la popularité dans les sondages, et puis Montebourg, qui, avec son ministère du redressement productif, promet, mais n'est peut-être pas soutenu autant qu'il l'aimerait par le reste du gouvernement?
Ben, vous voyez déjà que par la composition du gouvernement, le Parti Socialiste n'est pas un bloc monolithique. Il y a des hommes et des femmes différents avec des sensibilités et des postures politiques différentes. On a bien vu dans les primaires qu'il y avait quand même un monde entre ce que proposait Valls et ce que proposait Montebourg. On a vu aussi que ce qui est sorti des primaires, c'est quand même les idées de Montebourg qui sont arrivées en troisième position et pas celles de Valls.
Enfin, elles sont loin aujourd'hui, les primaires. Hein.
Ben, elles sont peut-être loin, mais elles sont
toujours... Aujourd'hui, on est à Montebourg à la tête d'un ministère un petit peu au nom, en tout cas un petit peu étrange, développement, production...
Non, redressement productif.
Redressement productif, voilà.
C'est un ministère difficile parce que les plans sociaux, les entreprises tombent comme gravelotes. Là, j'entendais encore Electrolux. Bon, le pays, l'emploi, c'est très compliqué dans ce pays-là. Et donc, il essaie de mettre en œuvre ce qu'il a proposé pendant la primaire dans le cadre restreint et contraint du gouvernement, parce qu'il y a quand même un engagement au niveau du gouvernement.
Mais vous venez de le rappeler, effectivement, Valls est arrivé en dernier à ses primaires. Montebourg était bien positionné. Et puis, on a vu Valls qui était pratiquement le directeur de campagne de Hollande. Et aujourd'hui, on parle de vice-premier ministre. Est-ce que ce n'est pas un des symptômes justement d'une droitisation de ce gouvernement, de cette gauche au pouvoir?
Je pense que c'est un des symboles d'un peu de l'ultralibéralisme de ce gouvernement et que aujourd'hui, au lieu de monter les questions économiques, on monte les questions sécuritaires. Loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de problème de sécurité en France, mais il y a aussi de graves problèmes économiques et il faudrait qu'on ait autant de temps et autant d'expressions sur des débats économiques que l'on a sur des prises de position sécuritaires.
Soutenir aujourd'hui un gouvernement social-démocrate comme celui de Hollande, on vous aurait peut-être plus vu avec le Front de Gauche, non ?
Bon, écoutez, moi, pour l'instant, dans la deuxième partie de ma vie, peut-être j'ai été un peu tête brûlée dans la première partie, dans la deuxième partie de ma vie, je deviens raisonnable et j'essaie de faire en sorte que les choses avancent et j'essaie de faire en sorte que les choses se construisent et se transforment. J'en ai assez de partir contre des idées qui aboutissent jamais, des gens qui gèrent jamais ou qui sont jusque boutistes. Et puis, moi, le guide suprême, j'ai déjà donné pas mal d'années et je ne veux pas retourner dans ces chemins-là.
Moins de radicalité, plus de réformes, Annick Boëtte.
Oui, plus de réformes. Et je dis que à l'instant T, je suis pas, je jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je dis qu'encore tout est possible et on est un certain nombre au sein du Parti socialiste à essayer de faire en sorte qu'on applique réellement une autre politique et qu'on commence à ouvrir les chemins d'une autre politique.
Alors on attend des signaux. Il y avait par exemple la promesse de renouveler le fonctionnement démocratique à travers par exemple le non-cumul des mandats. On a l'impression que le gouvernement avance à reculons. Et le Parti socialiste aussi, d'ailleurs, sur cette question-là.
Il y a les questions, le non-cumul des mandats, ça a été voté par deux fois par les militants socialistes, donc il n'y avait pas besoin d'une commission présidée par Lionel Jospin ou d'une loi, puisqu'on pouvait déjà l'appliquer au sein du Parti socialiste, l'appliquer. D'ailleurs, je signale que nos députés ont signé une lettre s'engageant à la démission de leur mandat locaux en septembre.
On a vu les commentaires de Michel Bozel là-dessus, hein, disant qu'il n'était pas prêt de démissionner. Quoi.
Oui, je trouve que Michel Bozel est dans l'erreur. On applique aussi les décisions de son parti et on ne peut pas continuer avec, je crois qu'on a 79% d'élus qui cumulent chez nous. Donc il y a des actes à faire et moi il faudra m'expliquer comment on peut être député et président d'une région. Pour moi c'est incompatible, surtout avec l'immense chantier législatif qu'il y a aujourd'hui à faire, et un député il est là pour faire des lois. Si on regarde bien dans le long cumul des mandats, il y avait aussi des mandats, notamment pour les exécutifs, limités à 18 ans, donc c'est-à-dire 3 mandats. Donc ça veut dire que là aussi il y a un certain nombre d'élus qui sont hors clou aujourd'hui dans mon parti.
Autre couleuvre que semble faire avaler le gouvernement, en tout cas vouloir faire avaler, c'est le vote des étrangers non communautaires, là-dessus aux élections locales. Hein, là-dessus vous dites que c'est un problème qui n'est pas urgent, qu'on peut traiter ultérieurement. C'est ce qu'a dit Manuel Valls.
Oui, moi je dis que c'est un petit problème. Parce que quand on regarde bien, combien ça concerne En fait, ça concerne pratiquement très, très peu d'étrangers. Et ces étrangers-là, ce sont des étrangers qui travaillent, qui sont intégrés et qui, pour finir, ont juste la carte d'identité. Ils n'ont pas de carte d'identité française. Donc ça concerne à peu près combien ? 115 000 personnes en France. Et on fait toute une affaire d'État pour ça.
Pendant... Ah, c'est une promesse de François Hollande.
C'est une promesse de François Hollande.
Dite, rééditée, qui date de François Mitterrand.
Qui devrait s'appliquer sans aucun problème. C'est pas... je dis que ça, c'est un courant naturel. Ça se passe dans les autres pays. Pourquoi ça ne peut pas se passer chez nous? Et pourquoi on reprend des arguments de droite, en mettant sur le devant de la scène des arguments de droite, pour focaliser là-dessus? Moi, je pense qu'il y a d'autres chantiers. Ça devrait passer comme une lettre à la poste au niveau du Parlement.
Qu'est-ce qui coince? C'est un manque de courage politique, peur de déplaire à une opinion qu'on imagine majoritairement hostile à cette mesure?
Écoutez, si c'était ça, en 81, on n'aurait pas fait la peine de, on n'aurait pas supprimé la peine de mort. Est-ce qu'il y avait une l'opinion en 81 était favorable à la peine de mort? Bon, vous étiez sans doute très jeune. Moi, j'avais encore... la majorité des gens, à 95%, étaient pour la peine de mort. Si on prend les questions d'IVG, tout ça, si on ne prend pas des actes forts à un moment donné sur des questions qui sont plus des questions de civilisation que des questions politiques, il me semble qu'on ne peut pas avancer. Et aujourd'hui, moi, il me tarde maintenant qu'on ouvre les grands chantiers. Bon, mais par exemple, le financement, la banque publique, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va relancer ce pays? Comment on va, au niveau de l'Europe, engager le chantier européen, parce que mine de rien, même si on se gosse beaucoup de lui, François Hollande a quand même un rôle à jouer et tous les commentateurs s'y accordent. Donc il y a tout ça, et pendant ce temps-là, on prend les chiffons rouges que nous tend la droite et on les agite nous-mêmes pour reculer sur un certain nombre d'engagements du président qui étaient plutôt des engagements sociétaux que des engagements politiques.
Ce traité européen donc, que vous avez évoqué tout à l'heure, si vous étiez député, vous l'auriez voté, vous? Je rappelle que vous étiez en 2005 contre le traité, le projet de constitution.
Oui, j'ai milité contre le non. Moi, ce qui s'est passé à l'Assemblée, je l'aurais voté parce qu'il y avait une ouverture, un pacte de croissance et l'essentiel n'était pas là. Mais après, c'est demain, qu'est-ce qu'on va faire au niveau européen, parce que c'est là que ça va se passer. C'est pas tant, on a débloqué une situation, on a permis de passer un cap, et ne pas le voter n'aurait pas plus permis d'avancer.
Vérité de 2005 n'est pas celle de 2012.
Oui, les choses évoluent. Si c'était le traité de 2005, j'aurais voté contre quand même.
Michel Guéraud.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce gouvernement, s'il ne fait pas la preuve de sa capacité finalement à incarner un changement, le changement promis, ouvre la voie à une droite radicalisée? On voit les rapprochements qui existent entre l'UMP et le Front National. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse responsabilité sur cette social-démocratie au pouvoir en France?
Il y a un risque quand même de populisme, d'extrême droite, de regain d'idées très très malsaines. Et on voit ce qui est en train de se passer en Grèce, par exemple. Nous, en France, on a tous les ingrédients pour que ce soit encore plus fort. Entre ce qui est en train de la recomposition à droite et la force de Marine Le Pen, on peut très bien imaginer, y compris dans une ville comme Marseille, des secteurs qui en 2014 tomberaient à l'extrême droite.
Mais vous dites quoi? Vous dites, François Hollande, réveille-toi, on ne peut pas faire le quinquennat comme ça, sinon ça ne va pas marcher? Ou vous dites, non, finalement, il va doucement, mais il va sûrement.
Oui, qui va piano va sano. Mais moi, je dirais plutôt, Parti Socialiste, réveille-toi. Parce qu'on ne peut pas laisser le président et le gouvernement tout seul. Le Parti Socialiste a son rôle à jouer dans cette société. Il ne doit pas être simplement là en comptant les points du gouvernement et en donnant des cartons rouges ou des cartons...
Alors vous qui avez connu justement deux partis, le Parti Communiste et le Parti Socialiste, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ce Parti Socialiste à la sauce Harlem Désir, puisqu'il va être nommé, il a déjà été élu candidat unique quand même, mais il va prendre ses fonctions d'ici peu. Qu'est-ce que vous attendez de ce Parti Socialiste concrètement?
J'attends qu'il redevienne un grand parti, un parti de propositions, d'accompagnement dans des propositions pour sortir de la crise, qu'on ouvre un immense débat démocratique et citoyen, et qu'avec les citoyens, on trouve des issues et des résistances.
Non, Harlem Désir, on le présente comme le roi de la synthèse, quelqu'un qui n'aime pas faire trop de vagues. Oui, c'est faux, c'est vrai.
Bah, de toute façon, il ne va pas faire un tsunami, ça on le sait très bien. Mais à un moment donné, si c'est l'homme qui peut aider à ce que le dialogue s'installe entre toutes les composantes du Parti Socialiste et que ce Parti Socialiste se mette au travail, fasse des propositions, soit parmi les députés, le gouvernement et avance, et puis soit un peu le garant de ce que les Françaises et les Français ont voté en mai et en juin, parce qu'il y avait quand même un programme qu'il va falloir tenir. Et il est temps, bon, moi je ne partage pas tout ce que dit Ségolène Royal, mais quand elle dit maintenant il est temps de passer aux réformes en profondeur, elle a raison. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans ce Parti Socialiste qui le disent.
Même si ça va à l'encontre des intérêts du gouvernement ? On a vu qu'il y avait quelques couacs, par exemple, à l'Assemblée nationale pour ce vote du traité. Certains commençaient à faire entendre leur petite musique.
Ben, de toute façon, moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'un parti godillot. On n'a pas besoin de gens qui mettent le doigt sur la couture du pantalon et qui réfléchissent de façon monolithique. Si c'est ça qu'on attend de nous, on va droit dans le mur. Moi, je suis sortie d'un parti où, pendant des années, on nous avait un petit peu, pas lobotomisé, mais enfin, bon, on nous avait mis le cerveau dans un cadre. Mais si c'est ça, et que les gens, si on n'a plus place à l'originalité, à la liberté, à des idées nouvelles, et à partir des idées nouvelles, comment on construit tout ça. Ce qui m'a menée, moi, vers Arnaud Montebourg, c'est un peu ce boîte à idées, c'est-à-dire il a sur la rénovation, bon, il a été avec Olivier Ferrand, un des artisans du primaire, sur les questions de protection de la production française, sur les questions des banques, bon, on a avancé un certain nombre d'idées. Où elles sont ces idées aujourd'hui? Comment on voit si c'est possible ou si c'est pas possible? Il y a qu'à bien voir un peu l'affrontement qu'il y a eu sur la banque d'investissement entre les différents étages de Bercy. Je livre pas des secrets d'État, tout le monde est au courant. Est-ce qu'on a une orientation très droitière, très social-libérale, ou est-ce qu'on a une orientation, je dis pas de gauche, je dis nouvelle, où on essaie de voir comment on peut contourner la sacro-sainte loi des marchés et redresser l'économie de notre pays, même si pour certains, c'est du protectionnisme.
Le mot gauche, le mot peuple, le mot combat, c'est quelque chose que le Parti Socialiste a définitivement laissé à Mélenchon et au Front de Gauche, voire au Parti Communiste, même derrière ?
Non, je ne pense pas, mais de toute façon, derrière ces mots, il ne faut pas que ces mots se transforment en slogan. Parce que moi, combat, peuple, tout ça, quand Mélenchon harangue les foules, et quand il va féliciter Chavez, pour moi, Chavez, c'est un dictateur. Même si son pays.
En même temps, Hollande les reçoit à l'Élysée.
Oui, mais il est bien obligé, c'est un président de la République. Mais Mélenchon n'est pas obligé de suivre en direct son élection. Voilà.
Le bolivarisme ne trouve pas grâce à vos yeux, c'est
non,
ça
moi, bon, même s'il y a une. Écoutez, quand on disait que c'était très bien, et je l'ai dit, Dieu sait si je l'ai dit et répété, que l'Union soviétique c'était très bien parce que les gens mangeaient à leur faim, nana, ils avaient tout sauf la liberté. Et on disait, mais c'est pas grave, ils n'ont pas la liberté. Est-ce qu'on recommence comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas raisonner différemment, y compris si on a des liens privilégiés avec Chavez, lui dire, mais tu ne crois pas que tu devrais quand même rendre un peu de liberté à ton peuple?
Michel?
Oui, donc vous pensez que Montebourg peut jouer une carte il va structurer. Il y a un courant qui se structure derrière lui ou c'est simplement une personnalité qui s'est présentée une fois aux primaires? Comment ça s'organise?
C'est compliqué. Je suis honnête. C'est très compliqué parce que de toute façon, on est des hommes et des femmes divers, venus d'horizons divers. Et c'est compliqué pour faire quelque chose un peu de structuré parce que c'est... c'est parfois du joyeux bordel. Bon. Mais à partir de là, il y a quand même des fondamentaux qui sont les idées. Il y a des idées et des rêves, qui est un mouvement qu'on est en train de réactiver. Et donc, à partir de là, un mouvement plus pour développer des idées, travailler à des débats sur l'économie, la philosophie, et puis essayer d'injecter un peu du neuf dans tout ce vieux.
Des idées et des rêves, vous voyez que vous aussi, vous arrivez au slogan, hein, petit à petit.
Ah non, mais c'est notre association, ça fait un moment, hein. Qu'elle existe.
On en vient à des questions plus locales, mais le gouvernement s'est penché de façon assez spectaculaire sur Marseille, avec une conférence interministérielle assez inédite. Votre sentiment là-dessus, avec un petit peu de recul, c'était ce qu'il fallait faire et,
Marseille, cause nationale.
Ben, écoutez, je pense que le gouvernement a bien fait parce qu'on ne pouvait pas laisser cette ville, la deuxième ville de France, notre grand port sur la Méditerranée, dans l'état où on est. Est-ce qu'on va continuer avec une ville où il y a plus d'un quart de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, où le chômage flambe et où l'insécurité galope? Donc on peut pas en rester là. Et je pense que la reprise en main par Hérault et ses ministres et le gouvernement, la loi qui est en train qui est en gestation là sur la métropole, va permettre aussi de dépasser les baronnies locales, des petits élus.
Vous auriez auriez fait, enfin, que, je ne sais pas, votre opinion sur l'appel de la sénatrice Samia Ghali à l'armée pour les quartiers nord?
Non. Je vous dis, bon, c'est Samia, moi je ne fonctionne pas comme ça, et je pense que l'armée, c'est l'ultime recours. On est dans une situation grave, mais enfin, on ne doit pas marcher au bout des bottes. Hein. Moi, l'armée, je vous dis, ça me fait un peu froid dans le dos. Et je pense qu'il y a les ressources dans notre pays et dans la ville pour essayer de sortir les quartiers nord et puis les quartiers sud. Hein, parce que moi, je suis aussi élue des quartiers sud, et je peux dire que ce qui se passe à la Cayolle n'est guère mieux que ce qui se passe à la Castellane.
Ben justement, on a l'impression que les problèmes se multiplient, que les solutions, elles, restent de l'ordre de l'incantatoire. On a vu des Samia Ghali, sénatrice socialiste, qui en appellent à l'armée. On a vu des populations qui chassent les Roms. Avec un soutien implicite de la même sénatrice. On a vu même les forces de l'ordre, en l'occurrence la police, avec l'épisode de la BAC Nord, qui sont incarcérés pour corruption supposée. Là, on montre un petit peu la limite des politiques, ou le touche pourri.
Non, on montre qu'une ville comme Marseille, en s'enfonçant dans la crise maintenant depuis de très longues années.
Alors, quel genre de crise? Crise morale,
Il y a une crise économique qui a conduit à une crise morale, une crise politique, une crise des valeurs, un recul de l'éthique, et puis bon, une espèce de pourrissement qui gagne tous les secteurs de la vie, de la politique à la police, en passant, bon, après, une ville qui est pétrie, qui a été façonnée par le clientélisme, qui fait que là aussi, je ne mélange pas clientélisme et grand banditisme, mais le clientélisme aussi amène sa pierre à cet édifice qui est en train de s'écrouler.
Michel Guéraud.
Le mois dernier, à votre place, on recevait Jean-Luc Chauvin de l'UPE 13, le MEDEF local, et qui est un fervent partisan de la métropole. Pour le coup, il oublie un petit peu son credo libéral. Il veut une intervention forte et rapide de l'État, parce qu'il juge que c'est la seule solution pour faire fonctionner un territoire qui dysfonctionne. Vous êtes sur une position de cet ordre-là vis-à-vis de la métropole. Vous parlez tout à l'heure des baronnies.
Non,
des...
Ben, de toute façon, ça fait des années qu'on essaie de réorganiser au niveau politique l'échiquier autour de l'aire métropolitaine. On n'y arrive pas. Chaque fois, c'est petit bras. La manière dont s'est constituée la communauté urbaine, quand on regarde bien, une ville immense comme Marseille, avec des petits satellites autour, cette communauté urbaine est petit bras.
18 communes.
Oui, mais 18 communes, mais enfin, à part Marignane et La Ciotat, c'est tout petit. Comment, normalement, si à l'époque on avait eu du courage, c'était Aix qui devait rentrer aussi dans cette métropole-là. On a un antagonisme entre Aix et Marseille. On n'est même pas arrivé depuis 5-6 ans à mettre en place un vrai réseau de transport dans l'aire métropolitaine. Donc il est temps de dire maintenant, vous arrêtez, on reprend la main, on essaie de mettre en place, parce que c'est pas de l'argent, il y en a eu. Mais à un moment donné, comment il est utilisé? Et on ne peut pas continuer. Si on habite Marseille, qu'on veut travailler à Vitrolles, si on n'a pas son véhicule, comment on fait? Et vice-versa.
Alors, deux points de vue s'affrontent. Il y a le pôle métropolitain, que certains élus souhaitent. Il y a la grande métropole, que d'autres veulent encore. Et puis, dernièrement, 55 maires du département, toutes couleurs politiques confondues, qui ont écrit au président de la République pour disant qu'il existait peut-être une troisième voie. Comment on va arriver? On va gentiment laisser la situation pourrir jusqu'à ce que le gouvernement décide par le biais de la loi.
Si on n'arrive pas à s'entendre d'ici mars, on aura une loi, puisque de toute façon, il faut que ce soit décidé avant mars. Hein. Mais on dirait que métropole, ça fait peur. Et ce qui fait peur, de toute façon, le département ne pourra pas se redresser si Marseille continue à s'enfoncer. Et Marseille, bon, quand on regarde la centralité, on vient soigner à Marseille, on vient au stade à Marseille, on vient à l'opéra à Marseille. J'ai l'impression de dire la même chose que Godin.
Vous dites la même chose que Godin.
Mais c'est la réalité. Quand, par exemple, si on prend Lyon, personne à Vénissieux ou ailleurs se pose la question de pourquoi Lyon est capitale et métropole de la région lyonnaise. Et pourquoi on se pose la question? Marseille, mal aimé. Ça a été au départ parce que Defferre ne voulait pas de ceinture rouge, ne voulait pas que Marseille soit gangrénée par le communisme. Mais là, maintenant, il faut qu'on arrête. Et quand on regarde bien le métro, la métropole, ça pourrait être l'ensemble du département, excepté la région arlésienne. Parce que les centralités sont de ce côté-là.
Alors, à propos de ceinture rouge, vos anciens camarades du côté de Martigues ou d'Aubagne crient à l'assassinat démocratique en disant c'est quoi ce gros machin, cette superstructure qu'on veut créer, la métropole. C'est incompatible avec un bon souci de la proximité, une bonne gestion.
Oui, mais la métropole n'enlève pas la proximité. Et je pense, enfin, je ne veux pas donner de leçons, ils font ce qu'ils veulent, mais je pense que nous, les élus, on devrait réfléchir à mettre un peu de sens dans cette grosse structure et à mettre un peu de sens avec le suffrage universel. Parce que c'est pareil, tant qu'on n'aura pas une élection au suffrage universel, des hommes et des femmes qui seront les conseillers et les élus de cette métropole, on restera une structure technocratique qui privera les communes alentour et même Marseille d'un véritable pouvoir. Si vous regardez aujourd'hui la communauté urbaine, il y a rien qui l'oblige à mettre en place un contrôle citoyen. Rien ne l'oblige. Ceux et celles qui sont membres de la communauté urbaine ont été choisis par leurs pairs au sein des conseils municipaux. Ça, c'est quand même, c'est plus normal. Quand on regarde bien aujourd'hui, tout ce qui est l'impôt passe par la commune. Pratiquement plus rien de vraies décisions passe par la ville de Marseille. L'essentiel des décisions se passe à la communauté urbaine et le citoyen n'a pas la main sur la communauté urbaine. Donc la métropole, c'est aussi...
Vous comptez sur les lois de décentralisation pour modifier
Oui, et je pense que la métropole, c'est aussi le moyen de tricoter de nouvelles citoyennetés. Et je pense que les élus locaux que nous sommes, nous devrions plutôt commencer à travailler et à se rapprocher des parlementaires et de Marie-Lise Branchu sur ces questions-là, plutôt que d'essayer de marquer nos petits territoires comme des renards qui font pipi autour de leur terrain.
Là-dessus, finalement, la RGPP n'avait pas que du mauvais, cette volonté en tout cas de réduire les couches, les strates.
Non, entre la RGPP et réduire les strates, bon, le millefeuille dont on a hérité, c'est pas une bonne chose, y compris ce millefeuille éloigne des centres de décision. Mais la RGPP, c'était quand même fait dans une optique d'austérité et d'économie, et notamment d'économie et de réduction des services publics. Donc la métropole, ça ne doit pas être non plus la réduction des services publics.
D'accord. Michel ?
Ceux qui parlent d'une mise sous tutelle de Marseille, c'est une erreur. La nomination de ce super préfet à la métropole. Est-ce qu'on n'arrive pas à ce résultat avec des politiques divisées, une co-gestion compliquée entre la ville de Marseille et MPM, la situation que vous venez de décrire, les divisions, etc., qui jouent, et puis finalement l'État qui de plus en plus intervient sur ce territoire.
Je pense que c'est quand même le rôle de l'État. Si on veut s'attaquer aux racines du mal, c'est le rôle de l'État de prendre en main cette question-là. Moi, je ne vois pas de mise sous tutelle.
À partir du mois de mars, il y aura mise sous tutelle par le biais de la loi.
Il y aura le biais de la loi, mais après, au mois de mars, c'est quand même les citoyens de cette région du département, ce morceau de département, qui voteront. Donc, ce n'est pas une mise sous tutelle. Moi, je pense que c'est de la responsabilité de l'État, à un moment donné, de dire, vous avez eu les moyens, vous n'y êtes pas arrivé, nous, on va mettre toute l'aide nécessaire, y compris les moyens financiers. Parce qu'à coller à cette soi-disant tutelle de l'État, il y a quand même des moyens financiers supplémentaires.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.
Le Ravi, Radio Grenouille, avec nous aujourd'hui, Annick Bouette, conseillère municipale PS, et on va parler plus directement de cette fédération, de cette ville de Marseille, et de ce fameux congrès fédéral qui a eu lieu le 20 octobre dernier, qui a montré un petit peu encore davantage le fossé et les divisions qui règnent autour de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône. Avant d'attaquer ce sujet-là, un mot sur le grand absent de ce congrès, celui qui est partout et dont on ne prononce pas le nom, presque un Voldemort, Jean-Noël Guérini et les affaires Guérini. Vous avez connu, vous, le conseiller général, vous avez même été salarié pendant un temps.
Oui, j'étais vacataire.
Un mot sur ses affaires et sur Jean-Noël Guérini, sa personnalité que vous avez soutenue aux dernières municipales, je le rappelle.
Écoutez, moi, quand j'ai soutenu Jean-Noël Guérini aux dernières municipales, je n'étais pas au courant de toutes ses affaires et de ce qui s'est passé par la suite. Bon. J'ai simplement vu qu'il avait un caractère très autoritaire et qu'il voulait toujours avoir raison, ça c'est vrai. Et on s'est opposé plusieurs fois, mais aujourd'hui, le problème, c'est de sortir de ce système-là.
Qu'est-ce que vous pensez des affaires qui sont sorties? On parle d'Alexandre Guérini, le frère de Jean-Noël, qui serait impliqué dans des détournements au niveau des déchets. Là, on parle ce matin encore au niveau des ports de plaisance. C'est une affaire multiple, extrêmement grande. On a vu Jean-Noël Guérini qui est quand même mis en examen pour association de malfaiteurs, c'est pas rien.
Ben, moi, ce que je pense, c'est qu'il ne devrait plus être président du Conseil général et il aurait dû laisser sa place, puisque c'est un mandat que lui ont donné les socialistes, puisque c'est les militants socialistes qui ont désigné le président du Conseil général par leur élection. Et donc, ce mandat-là ne lui appartient pas.
Et c'est les élus qui l'ont réélu, hein, dernièrement.
Oui, ils l'ont
réélu. Les militants lui ont donné le mandat, mais les élus l'ont réélu.
L'ont réélu. Et c'est une situation, ben, y compris, c'est une situation qui pèse sur Marseille et l'état de la ville. Quand vous vous promenez dans une cité, qu'est-ce qu'on vous dit? Ou dans un quartier, tous pourris. Regardez les élus, les flics, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, par exemple, moi, je vois des quartiers comme, où je suis élue, comme la Capelette, où le Front National, il fait plus de 50%. Donc c'est bien cet état-là, il faut vraiment que ça s'arrête. Et nous comptions fort sur ce congrès pour mettre un coup d'arrêt à tout ça.
Le Parti Socialiste avait demandé, au niveau national, avait demandé à Jean-Noël Guérini de démissionner un temps de ses fonctions. Il a voté à ce congrès, il est toujours membre du Parti Socialiste. Qu'est-ce qui se passe là? Harlem Désir, lors de son intérim, au moment du départ de Martine Aubry, avait semblé être un petit peu déterminé sur ce dossier. Ça pourrait être le cas à nouveau, ou alors on va continuer un petit peu dans ce demi-ton, dans ce...
Oui, alors ça peut être, je ne sais pas ce que va faire Harlem Désir. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu la mise en place de la fameuse commission Richard à la suite des témoignages qui ont été recueillis en février et mars de 2011. Bon, en juillet, donc, cette commission Richard a fait plusieurs préconisations, dont l'élection d'une collégialité. J'ai fait partie jusqu'à samedi de cette collégialité en étant un membre désigné par le...
Annick Poët, pourquoi avoir accepté cette collégialité? Pourquoi ne pas être allé jusqu'au bout en refusant tout net, toute collaboration avec des guérinistes supposés au réel?
Parce que ce compromis a été pour nous, enfin, au départ j'étais pas très convaincue, puis après j'ai dit bon, ben, si c'est le moyen de reconstruire quelque chose plutôt que la mise sous tutelle, donc on a dit on va essayer de travailler ensemble. Donc ce compromis a été compliqué à mettre en place. On a quand même eu des hommes et des femmes qui ont été désignés directement par Jean-Noël Guérini, avec d'autres qui avaient été désignés par le Bureau national et élus par les militants.
À l'époque, vous aviez témoigné auprès de la commission, oui. Richard, vous aviez dit des choses qui étaient relativement fortes. Vous aviez...
Mais pas moi toute seule.
C'est vous qu'on invite aujourd'hui. Vous aviez parlé de sections où il y avait quasiment de la triche, où les votes n'étaient pas respectés.
Mais je peux dire la même chose. Je peux dire la même chose aujourd'hui. Non, ce qui s'est passé, donc il y a eu quelques espoirs avec cette commission Richard, en disant au moins, bon, même si c'était pas tout à fait ce qu'on souhaitait, on était un certain nombre avec des sensibilités tout à fait différentes, à dire on va essayer de construire. Bon, ce qui s'est passé avec les primaires, on a quand même pu mener dans cette fédération les primaires à bien dans toutes les sections et dans toutes les villes du département. La rénovation se mettait en route, puis elle a été stoppée avec l'arrivée des présidentielles et des législatives, ce qu'on n'aurait pas dû stopper. À la suite de ça, donc dans le rapport Richard, il était préconisé qu'il n'y ait pas de section de plus de 250 adhérents.
Les scissions ont été faites.
Donc ça voulait dire d'un certain nombre de sections qui se coupent en deux, voire en trois, et qu'il ne fallait pas non plus qu'il y ait plus de 20% d'adhérents hors sol, c'est-à-dire qu'ils n'habitent pas le territoire de la section. Donc là, autour du 20 août, on s'est retrouvé en réunion de collégialité, je crois le 20 août, et on s'est rendu compte qu'il y avait eu Jean-David Ciotte et Ludovic Girard qui est
le premier secrétaire Jean-David Ciotte.
Voilà, et Ludovic Girard qui avait la responsabilité donc de la rénovation de la fédération, et Magali Lefrançois. Je précise quand même que Magali Lefrançois est la collaboratrice parlementaire de Jean-Noël Guérini.
Elle est aussi secrétaire de la fédération.
Secrétaire générale de la fédération à mi-temps. Donc se sont rendus auprès d'Alain Richard pour dire que la rénovation était appliquée à 80%. Donc devant cet état de fait, on a été à plusieurs membres de la collégialité, on a fait une lettre qu'on a portée à Martine Aubry à l'Université d'été de La Rochelle, expliquant notre vision à nous de la rénovation. À la suite de ça, on a attendu vainement la venue d'Alain Fontanelle, qui était l'envoyé de Martine Aubry, pour voir un peu ce qui se passait dans notre fédération. Et le vote qui a eu lieu jeudi en 15 sur les motions a été couplé d'un vote sur la rénovation. Donc là, ont été élus des secrétaires de section qui ont été désignés et choisis par Jean-David Ciot et sa majorité. Le choix des adhérents hors sol dans les sections s'est fait de manière tout à fait arbitraire, je peux en parler chez moi, puisque dans la 310, il y a eu trois listes. Une première liste faite par le premier secrétaire au Néolméta, une deuxième liste faite par la Fédé, et une troisième liste en émargement, où des gens qui devaient rester ne sont pas restés. Donc on s'est retrouvé dans cette situation-là, en même temps que le vote des motions, et il est sorti de tout ça, bon, ben, des premiers secrétaires de section, sauf pour la section d'Est, à la solde de Jean-David Ciot.
Et qu'est-ce qui vous permet de dire ça, Nick Boit?
Ah ben, écoutez, quand on a remplacé, souvent on a remplacé un employé du Conseil Général, puisqu'il ne pouvait plus être, dans le rapport Richard, secrétaire de section, par l'élu, par le Conseil Général. Donc, ne me dites pas que c'est la rénovation. Par exemple, Jean-François Noy, conseiller général d'ici, du 3e...
qui a été élu, oui.
Ouais, du 3e arrondissement, élu premier secrétaire de la section 305 dans la circonscription de Marie-Arlette Carlotti. Donc, voilà, ça, c'est qu'un exemple. Hein. Donc, ça veut dire que c'est pas de la rénovation, ça. Donc, de ça est sorti ce qui s'est fait samedi au Congrès fédéral. Je précise, parce que par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, le Congrès fédéral a été très calme. Mais la veille, il y a eu une réunion qui a été très agitée, de la motion 1, voilà, qui s'est terminée très tard. Parce qu'en fait, dans cette motion 1, il y a eu une répartition des sièges au Conseil fédéral, même si ça paraît cuisine interne, mais après, tout se dessine dans le fonctionnement du PS. Une répartition des sièges, donc le Conseil fédéral aujourd'hui est fait de 100 membres, plus de 50 suppléants et de 50 secrétaires de section. Sur ces 100 membres, donc, qui sont des votants dans le Conseil fédéral, la minorité, c'est-à-dire celles et ceux qui avaient participé au rapport Richard et qui avaient demandé qu'on revoie un peu le fonctionnement et beaucoup le fonctionnement de cette fédération, se retrouvent avec 10 membres. Parmi ces 10 membres qu'on nous proposait, il y avait la sensibilité Payon, la sensibilité Hamon, la sensibilité Montebourg et la sensibilité respirée à gauche du président de la République.
Donc des confettis.
Oui, même pas, enfin des miettes. Voilà. Donc nous n'avons pas été d'accord sur cette répartition. Nous avons de nouveau saisi la direction nationale et vendredi après-midi est arrivé un mail demandant à ce que au sein de la motion 1, on reconsidère les choses et qu'il n'y ait pas de vote lors du Congrès fédéral des délégués membres du Conseil fédéral de la motion 1. Il n'a jamais été dit que la note d'Alain Fontanelle qui est arrivée vendredi mettait la fédération sous tutelle.
C'est ce que certains ont essayé de faire croire, voilà, en l'occurrence contre, Patrick Menucci.
Par contre, elle mettait sous contrôle la motion 1. C'est complètement différent, puisqu'Arlem Désir, là, parlait en tant que responsable mandataire de la motion 1.
Motion 1 qui a eu 77 postes sur 100, c'est ça?
Oui, voilà.
Voilà. Donc aujourd'hui, pour les auditeurs, on peut dire que la direction nationale vous a un petit peu lâché, que vous n'êtes pas très content et que Jean-Noël Guérini, par le biais de Jean-David Ciot et d'autres, ont repris la main dans cette fédération.
Je pense que depuis le début, Jean-Noël Guérini avait toujours la main sur cette fédération. Il se mettait plus ou moins en retrait. Là, il est reparti de plus belle, y compris la manière dont il a fait un vote très démonstratif jeudi dernier encore à la fédération. Je ne dirais pas que la direction nationale nous a lâchés. Je dirais que nous avons perdu dans cette fédération le Congrès. Après, on tirera les enseignements, on est en train d'y réfléchir, de quand nous l'avons perdu et pourquoi nous l'avons perdu. Peut-être.
Il vient d'où le problème, concrètement, Annick Boit? Il vient quoi? De la collégialité, c'est des gens qui ont chacun des visions différentes. On a vu que Eugène Caselli, qui est président de la métropole, a décidé de rejoindre à nouveau Jean-Noël Guérini.
Il a rejoint Jean-David Ciot.
C'est quoi? C'est un manque de cohérence? C'est des égos un petit peu?
Non, je pense qu'on a sous-estimé un certain nombre. Nous avons sous-estimé le poids de l'enjeu que constituait Marseille dans ce congrès. et que
on, comme on, dans tous les congrès d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, et on était dans la bataille de demain, on n'était pas dans la bataille d'aujourd'hui. On est resté figés, nous, sur les organisations du Parti Socialiste, pendant que d'autres commençaient à voir demain Marseille et s'organiser. Et puis, de toute façon, tout ce qui s'est mis en place depuis des années, ce clientélisme sublimé et tout ça, fait que ces racines-là, elles sont difficiles à extirper, et que peut-être on avait qu'un doliprane pour soigner tout ça et pas des vrais moyens d'éradiquer.
Vous dites que vous voulez fermer le chapitre du clientélisme. Il y a deux choses en fait. Il y a l'affairisme et le clientélisme, ça peut se rejoindre. Il y a les affaires, on verra ce que dit la justice, et le clientélisme qui existait avant Jean-Noël Guérini, qui existera peut-être après lui. Est-ce que le problème, il vient pas du fait que de nombreux cadres de cette fédération pratiquent le clientélisme depuis très très longtemps et très naturellement ne sont pas très enclins à changer ces pratiques.
Et quand on dit
cadre, en dehors de la personne, est-ce que vous focalisez pas trop sur une personne, Jean-Noël Guérini? Avant, il y a eu Bernardini, il y a eu...
Végan.
Non, je vous dis, on focalise pas. Là, on a réellement un problème parce qu'avant, on avait le clientélisme. Aujourd'hui, on a l'affairisme et peut-être même la mafia. Donc, c'est quand même, il y a eu un cap qui a été franchi. Moi, je dis qu'il y a eu, c'est le clientélisme qui a permis la mise en place du système Guérini. Hein. J'ai pas peur de le dire. Bon. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se débarrasse un peu de tout ça. Bon. Mais c'est vrai que quand on vous dit dans la répartition, moi, je suis une sensibilité Montebourg, mais on dit pas les adhérents qui sont avec Annie Gouette. Là, on nous dit, j'ai tant de délégués, je suis dans l'agenda Vissiot, j'ai tant de délégués, je suis Caselli, je suis Gibrayel, je suis Andrieux, je suis Povignelli, voilà.
Annick Bouette, pour prolonger la question de Michel Guéroux, et pour être très concret, Annick Bouette, cette collégialité, Marie-Arlette Carlotti, Patrick Menucci, Joël Canicave, vous êtes récemment, vous avez intégré le Parti Socialiste, donc on vous exclut de cette liste. Mais enfin, tous ces gens-là étaient en fait de la politique avec Jean-Noël Guérini, ont biberonné aux pratiques du clientélisme. Ils ont connu Bernardini, ils ont connu même pour certains Végan auparavant. Donc, est-ce qu'on peut rénover avec les mêmes ?
Je pense que oui. De toute façon, on pouvait pas les exclure. On a essayé. Bon, après, est-ce que c'est possible ? C'est compliqué. Ça avance, mais c'est vrai que les vieux démons sont toujours là. Donc des fois, on les chasse, ils reculent, et puis des fois, ils reviennent. Bon, ce qui s'est passé encore là ces derniers jours fait que on remet en place le même système. Et le même système, et c'est pas avec un parti socialiste façonné ainsi que Marseille pourra redresser la tête. Mmh. Avec un parti socialiste façonné ainsi, on fait le lit du Front National ou d'une droite extrême, et surtout, on laisse les Marseillaises et les Marseillais dans la situation où ils sont aujourd'hui.
Mais quelle crédibilité vous pouvez avoir quand vous avez des gens qui ont déjà, comme je l'ai dit, travaillé avec Jean-Noël Guérini et avec d'autres auparavant, quand on a une élue comme Andrieux qui a aussi des soucis avec la justice, les gens ne comprennent pas très bien, en fait. On focalise sur Jean-Noël Guérini, mais en même temps, c'est les mêmes qui étaient avec lui, qui l'ont même réélu, qui se retrouvent
On ne peut pas dire que Marie-Arlette Carlotti, même si elle a été un moment avec lui...
Elle a voté comme les autres.
Non, elle a pas réélu depuis plusieurs... Si.
Elle a voté au même titre que les autres élus.
Depuis, chaque fois, elle vote contre lui, elle a voté contre le budget et tout ça. Pareil pour un certain nombre de conseillers généraux qui ne sont pas assez nombreux. Bon, Patrick Menucci a quand même dit clairement... ce qu'il pensait, et d'ailleurs c'est pas étonnant qu'il ait des attaques un peu qui viennent de toutes parts. Bon, la problématique est qu'on a cette situation. Comment on fait ? Et comment on fait aujourd'hui avec un parti qui est pour l'essentiel celles et ceux qui en ont assez de ce système-là se mettent un peu en retrait, et il nous reste que des gens comme vendredi soir qui sont venus pour voter ce qu'on leur avait dit qu'ils devaient voter avant d'entrer.
Alors on va inverser la question. Qu'est-ce qui fait que les conseillers généraux et puis les cadres de ce parti socialiste freinent sur cette rénovation? Pourquoi vous êtes aussi minoritaire? Ils ont peur, enfin, ils sont tenus par des logiques de clientélisme, justement. Ils ont peur de perdre des budgets, de perdre des... Qu'est-ce qui se passe
on tient à base de subventions pour un certain nombre, parce qu'il y a quand même eu des menaces sur un certain nombre de collectivités qui ont failli perdre leurs subventions du Conseil Général. On tient parce qu'un enfant travaille au Conseil Général, l'autre a un logement.
Comment vous expliquez-vous l'adhésion, le retour en tout cas d'Eugène Caselli, président de MPM, avec Jean-David Ciot? Il a eu des mots très très durs sur la fédération, sur Jean-David Ciot, sur Jean-Noël Guérini, et aujourd'hui, il vous a un petit peu lâché. Comment vous expliquez ça? Lui, il n'a pas besoin de subvention. Il est président de communauté urbaine.
Bah, écoutez, moi, vous lui demanderez. Moi, je
Et vous-même, Annick Boit, vous avez un point de vue là-dessus?
Je pense que, de toute façon, il pense que c'est avec Jean Davidson qui pourra devenir président de la métropole. Bon, et qu'il a très bien compris qu'on était en train de perdre le congrès et qu'il est allé du côté de celui qui était censé être le vainqueur de ce congrès-là. Voilà, c'est tout.
Alors, deuxième question, deuxième niveau national. Comment ça se fait que un Harlem Désir, enfin bon, il vient juste d'arriver, donc on va lui laisser peut-être un petit peu de temps.
Poser quand même.
Mais comment ça se fait, en tout cas, que le Parti socialiste au gouvernement aille si doucement dans cette injonction à se rénover pour cette fédération?
Les roues, ils ont été beaucoup plus rapides. La mise sous tutelle a été radicale. Le Nord-Pas-de-Calais a été nettoyé.
Là, vous avancez, parce que moi, les échos que j'ai, la mise sous tutelle était rapide dans l'Hérault, mais ça s'est pas très bien passé à ce congrès. Et dans le Pas-de-Calais, ça a été aussi très compliqué. Quand je disais que les vieilles pratiques reviennent quand même au galop dès qu'on lâche un peu prise, et dans la mesure où le corpus militant il est constitué de ça, c'est aussi compliqué, parce que le Parti socialiste, c'est aussi des hommes et des femmes et les militants. Et quand on regarde aujourd'hui la majorité des section, ce sont ces hommes-là et ces femmes-là qui le constituent.
Michel ?
Jean-Noël Guérin, donc, est influent encore au niveau national. Il a des relais au niveau de l'appareil socialiste.
Oui,
je rappelle qu'il est sénateur.
Il est sénateur, il est toujours au Sénat, il assiste aux réunions de groupe. Et quand on voit le marché dans les allées du Sénat, c'est pas un pestiféré, il a des amis autour de lui, donc il est toujours considéré comme un élu normal, comme si c'était rien passé.
Il va y avoir une échéance, Nick Boit, une cascade même d'échéances électorales, notamment les sénateurs. Les socialistes peuvent également reperdre le Sénat qu'ils ont gagné il n'y a pas longtemps. Le fait de ménager Jean-Noël Guérini, ça explique ?
Ça peut expliquer, je pense. Parce que Jean-Noël Guérini, de toute façon, ne se cache pas en disant qu'il maîtrise un certain nombre de sénateurs et qu'il peut la main sur quatre sièges.
Donc les calculettes amènent à la raison ?
Les calculettes, mais enfin, je pense que c'est des petits comptes d'apothicaire qui sont pas à la hauteur de celles et de ceux qui le font. Et je pense que, de toute façon, ça ne va pas durer longtemps et que nous sommes peut-être, même si ça semble un peu, on semble un peu battu, je pense que peut-être on est au début du début. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis peut-être que là, parce qu'on se sent très mal, parce qu'on pense qu'on a raté une manche essentielle et que peut-être on n'aurait pas dû participer à ce qui s'est passé avec la collégialité et tout ça, pour remettre en place ce système-là, peut-être que le système-là, il est carrément en train de s'effondrer pour de bon, parce que ni le gouvernement ni le Parti socialiste n'ont besoin qu'un tel état de fait reste sur Marseille.
C'est quoi votre espoir, par exemple, des primaires à Marseille qui permettraient de redistribuer les cartes et de contourner une fédération qui serait
noyautée? De toute façon, moi, c'est mon
espoir.
Là, on
parle de municipal 2014.
Oui. Non, j'ai compris. Moi, non, je sais bien que c'est pas des primaires pour la fédération. Moi, mon espoir, c'est que, de toute façon, je pense que, et c'était ce que nous avions porté dans la contribution avec les amis d'Arnaud Montebourg, c'est qu'on ait dans toutes les villes de plus de 20 000 habitants des primaires. Citoyennes ouvertes, comme on a eu pour les présidentielles, qui soient là un peu en amont de la municipale. Mais mon espoir aussi, c'est l'application du non-cumul des mandats, qui va quand même permettre aussi une respiration, l'application de la parité, parce que même là, c'est très difficile.
Quand vous dites en amont des municipales, c'est quoi? C'est bientôt, là, c'est 2013, quoi.
Ben oui, courant 2013, c'est-à-dire on ne peut pas choisir le maire en février pour mars, l'élection en mars. Ça veut dire des primaires peut-être en septembre ou
vous
en octobre.
Vous êtes candidate?
J'ai réfléchi le matin en me maquillant.
Pour l'instant, il y a d'autres candidats.
Non, pour l'instant. On verra. De toute façon, moi, je prends les choses comme elles viennent. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est le congrès qui a lieu à Toulouse. Il faut qu'on sorte avec quand même des forces pour pouvoir continuer ce combat dans notre département. Il faut qu'on sorte pour pouvoir mettre de l'éthique dans ce département.
Il y a toujours, l'opposition est toujours unie, malgré la défection de Eugène Caselli. Vous vous voyez avec Carlotti, Patrick Menucci, Canica.
On se voit très régulièrement. On garde...
Vous vous êtes vu là, après ce week-end?
Oui.
Qu'est-ce qu'il s'est dit ?
Il s'est dit, on a tous envoyé une note à nos sensibilités différentes au niveau du national, proposant une nouvelle répartition des sièges.
Une question quand même, vous êtes unis, vous voyez, mais vous n'étiez pas capable de vous mettre d'accord sur une candidature. Vous êtes candidate donc à la succession de Jean-Denis Ciotte,
oui, Canicard
aussi.
On est,
c'est quoi? C'est une stratégie pour rassembler des réseaux différents?
Non, on est unis, mais on est unis, mais on a des sensibilités complètement différentes. Et nos candidatures portent des témoignages différents.
Mais vous n'étiez pas capable de vous mettre d'accord contre Jean-Noël Guérini?
Jean-Noël Guérini, non, il est plus président de la fédération contre Jean-David Ciotte.
Oui, mais enfin, indirectement, puisque vous suggérez depuis tout à l'heure que c'est lui qui gère toujours la fédé.
De toute façon, l'élection du premier secrétaire fédéral aura lieu le 15 novembre. Mmh. On est presque à un mois de l'élection.
Non, mais ça y est, c'est perdu, là.
C'est perdu, on n'en sait rien. On avance au fur et à mesure en fonction des événements et des situations.
Qu'est-ce qui peut se passer qui ferait
que les choses changent? Ce qui peut se passer, c'est peut-être un autre rapport des forces au sein du Conseil fédéral et peut-être de nouveau un retour sur la rénovation avec l'élection, par exemple, le 15 novembre, d'autres secrétaires de section que celles et ceux qui ont été choisis dans le cadre de la rénovation.
Vous allez faire campagne, ça prend quelle forme là? Vous êtes candidate, le 15 novembre il y a un vote.
Oui, ça va commencer, je pense, après le congrès. On va faire campagne, je suis en train de faire une profession de foi, on va publier cette profession de foi auprès des militants et on va aller à la rencontre des militants et des militantes dans les sections.
Qui va être garant de l'impartialité de ce vote-là?
Écoutez, d'ici là, peut-être ça a évolué, mais il y aura peut-être une commission du vote qui se mettra en place. Je sais qu'il y a eu des choses qui ont été, qui sont en gestation avec Mignard et Jean-David Ciotte au niveau de l'éthique et tout ça. Peut-être que ça sera aussi pour l'élection du premier secrétaire et des élections des secrétaires de section, puisque le 15 novembre, tout le monde revote.
Mmh. Après cette échéance-là, après le 15 novembre, il y a les municipales, ça tout le monde en parle. Des candidats sont déclarés. Comment ça va se passer? Alors, certains réclament, demandent des primaires. D'autres n'en veulent pas. Comment concrètement ça va se réaliser? D'abord, est-ce que c'est pas Paris qui va choisir le candidat?
Ça serait quand même une mauvaise chose.
C'est peut-être même la seule solution pour vous, si vous voulez des élections équitables.
Ouais, de toute façon, déjà, la seule chose positive qu'il y a eu à ce congrès fédéral samedi, c'est le vote d'un amendement pour qu'il y ait des primaires dans les villes de plus de 1000 habitants, de 100 000 habitants. Oui. Donc, ça, ce qui voudrait dire pour notre département des primaires à Aix et des primaires à Marseille. Nous sommes quand même très nombreux et c'est une aspiration forte des militants et des militantes qu'il y ait ces primaires. Donc nous, après le congrès, on va se battre pour qu'il y ait des primaires. Et on va se battre d'ailleurs déjà à Toulouse pour que l'amendement soit voté à Toulouse.
Vous êtes optimiste? Vous pensez que le Parti Socialiste peut remonter la pente d'ici 2014 pour être en ordre de marche et présenter un candidat face à Gaudin ou à on ne sait qui?
Je pense que si on veut être digne de Marseille, on a intérêt à peut-être passer au-delà de nos égos et de nos turpitudes. Et je pense qu'on a les ressources. Mais après, est-ce que nos dirigeants, et je me mets dedans, on arrivera à se tirer de ce mauvais pas? Je pense que l'enjeu est quand même énorme et ça fait quand même appel à un sens de responsabilité important pour nous.
Une candidature unique mise en avant par les réformateurs entre guillemets que vous êtes, c'est possible? C'est envisageable?
Si on dit des primaires, pourquoi on va aller à une candidature unique? C'est pas
possible. Si les primaires n'ont pas lieu, on peut faire des primaires aussi entre le candidat de Jean-Noël Guérini, supposé en tout cas, et celui des réformateurs. C'est ce qui va arriver probablement d'ailleurs.
De toute façon, derrière l'homme, il y aura un programme, il y aura des objectifs, il y aura des ambitions pour Marseille, parce que c'est ça aussi, hein, c'est pas un homme tout seul ou une femme toute seule qui va porter ça. Donc ça veut dire qu'avant les primaires, il va falloir aussi travailler avec le plus grand nombre, y compris avec moi je vois ça, avec des vrais chantiers citoyens, travailler à des propositions pour notre ville et pour la métropole.
Ça c'est les valises, mais le porteur des valises aujourd'hui, il y a trois candidats qui sont plus ou moins déclarés. La ministre Marie-Arlette Carlotti, Eugène Casilli, encore lui, et Patrick Menucci. Il y en aura peut-être, il y en aura même sûrement d'autres. Il n'y en a aucun de ces trois qui trouvera ça à vos yeux?
Pour l'instant, moi je dis, on n'en est pas encore au choix du candidat. Pour l'instant, on est déjà, mettons en place les primaires, mettons en place une véritable démocratie un peu locale, à une nouvelle sauce, en organisant les primaires et en construisant le programme. Après, il y aura peut-être plus de candidats que ceux que vous annoncez.
Vous avez quand même du mal à vous mettre d'accord sur un nom.
Bah, écoutez, moi, pour l'instant, je n'ai pas choisi qui je soutenais, je suis franche avec vous, parce que de toute façon, je ne sais pas ce qu'ils proposent pour Marseille. Donc, pour l'instant, je ne soutiens personne, j'attends de voir, mais moi, ce que je sais à l'instant T, c'est que je vais me battre pour qu'il y ait des primaires dans Marseille.
Michel, c'était quand même assez terrible ce que vous venez de dire sur je ne sais pas ce qu'ils proposent pour Marseille. On n'est pas si loin de l'échéance. C'est une réalité, on vient d'en parler longuement, mais on a l'impression que toute votre énergie va dans des batailles sûrement extrêmement importantes, hein, mais pour rénover finalement les tuyaux, et que personne ne prend le temps de se pencher sur ce qui va être finalement les dossiers de fond à mettre en avant.
Mais écoutez, on travaille quand même sur les dossiers de fond, mais déjà, l'hypothèse de la métropole ou pas la métropole. Les propositions pour Marseille vont quand même être singulièrement différentes si on est dans le cadre d'une métropolisation ou pas d'une métropolisation. Ce qui ressort de la ville, ce qui ressort de la communauté urbaine vont peut-être complètement changer. Donc il y a quand même des éléments. Après, il y a des grandes lignes sur ce qu'on veut, au niveau du logement, au niveau des déplacements. Mais ça va quand même... La métropole va quand même peser là-dessus. Donc moi, je vous dis, de toute façon, pour une année, moi, donnez-moi jusqu'à lundi, il y a un certain nombre lundi où on en est dans les rapports de force au sein du Parti Socialiste. Déjà, si on sort du Congrès avec les primaires dans les grandes villes, ça serait un événement. Et après, on se met au travail. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà au travail. Mais il y a besoin aussi de faire partager ces projets-là avec les Marseillaises et les Marseillais. Et c'est ce qui est la force aussi dans les primaires.
Quand vous dites qu'il y a des gens qui sont déjà au travail, vous pensez à la gauche, des socialistes ou à la droite ?
Non, je pense à la gauche.
Qui ça ?
Ah ben écoutez, il y a des équipes qui sont au travail autour des principaux candidats.
Lesquels ?
Autour de Caselli et de Minucci.
Caselli a déjà des équipes, Patrick Minucci a déjà des équipes
Bien
qui travaillent
sûr.
Pour un programme
ben
municipal
oui.
de 2014.
Oui.
Maria Arlette Carlotti, non.
Écoutez, je ne sais pas. Je vous dis ce que je sais. Hein. Je ne vais pas tirer des plans sur la comète. Voilà.
Finalement, on a l'impression quand même que les socialistes se reposent beaucoup sur un autre protagoniste de cette affaire, c'est le juge Duchesne. Est-ce que ce n'est pas lui qui finalement pourrait arranger tout ça en accélérant les procédures ?
Moi, je pense qu'on a nos propres responsabilités. On peut pas s'accrocher au basque d'un juge et d'attendre qu'il mette des gens en examen ou en garde à vue. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a eu des manquements graves. Moi, j'ai vu une élue verte il y a 15 jours à Paris, à qui Bertrand Delanoë a, au bout de 5 minutes, demandé sa démission de son mandat d'adjointe d'arrondissement.
Soupçonnée de blanchiment d'argent, oui. Trafic de stupéfiants.
Oui, mais enfin, bon, ben, ici, on en a d'autres qui sont soupçonnés de blanchiment d'argent, d'association de malfaiteurs qui sont toujours en place. Bon, donc, que ce soit l'argent de la drogue ou du blanchiment. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses... Il y a des temporalités qui sont différentes pour les uns et pour les autres. Et un parti comme le mien ne doit pas avoir ces temporalités-là. On est mis en examen, on se retire et on peut revenir si on est blanchi.
Vous allez avoir des responsabilités au niveau de la rue Solferino ou pas ? Il y a peu de chance si on garde le mode de scrutin actuel.
Je suis candidate au Conseil national. Vous en saurez plus lundi.
Vous avez des espoirs là-dessus ?
On verra.
Michel ?
Sur un plan personnel, c'est une reconversion politique qui est complexe. Hein. Vous sortez de longues années au Parti communiste, vous en avez parlé tout à l'heure, et vous voilà dans ce Parti socialiste. Qu'est-ce qui vous fait avancer dans le militantisme, et compte tenu de la conflictualité, la difficulté d'avancer vous n'avez aucun regret d'être à cet endroit-là, et l'idée de parfois aller cultiver votre jardin ne vous traverse pas l'esprit ?
D'abord, j'ai pas du tout la main verte. Vous pouvez le demander à mon mari. Mais parfois, je me demande ce que je fais là. Mais je pense, je regrette pas d'avoir.
Avouez que vous avez pas eu de bol quand même.
Non.
C'est plutôt laborieux là.
Voilà, je regrette pas d'avoir quitté le Parti communiste. Pour l'instant, je regrette pas d'avoir adhéré au Parti socialiste parce que je pense qu'il y a encore des batailles et des éléments qui font que je pense que j'ai ma place dans le Parti Socialiste. Après, pour ce que je vais faire dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, vous savez, moi, j'avance en âge et donc j'en ai plus pour très longtemps non plus dans ces mouvements-là. Et j'ai aussi une activité professionnelle qui prend beaucoup de mon temps. Voilà. Donc, j'essaye de faire avancer. Là, j'essaye de mettre un peu d'éthique, un peu de sens dans cette fédération. Si c'est possible, je continuerai. Si c'est pas possible, je fermerai le livre de la politique. politique.
Un peu d'éthique de la fédération, des Bouches-du-Rhône, résultat bientôt, que ce soit à travers les urnes ou à travers une décision du juge Duchesne. Annick Bouette, je vous remercie. Quant à nous, on va se retrouver le mois prochain avec un tout autre invité. Restez fidèles au 3-8 et surtout lisez le Ravi. Bye.
La grande tchatche.